Ensemble sur Calade.
Ensemble sur Calade.
Ensemble sur Calade.
Ensemble sur Calade, c'est en direct du lundi au vendredi de 12h12 à 13h. Et c'est évidemment sur Calade.
Ensemble sur Calade.
Ensemble sur Calade.
Ensemble sur Calade.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Ensemble sur Calade. J'espère que vous êtes en forme et que vous avez profité tant bien que mal de ce week-end prolongé. Nous sommes le mardi 6 avril 2021, il fait beau dans le Beaujolais, on profite du soleil malgré la présence de quelques petits nuages. Par contre, les températures sont assez fraîches, autour de 6-7 degrés. Alors suivez bien le conseil du dicton et ne vous découvrez pas d'un fil. Au programme de notre émission, on va retrouver le coach pour ses conseils, ses observations. Le coach qui dans une phase philosophique en ce moment, ça doit être le printemps qui lui fait ça. On va retrouver également notre libraire Bertrand Lamure et ses conseils littéraires. Mais d'abord, eh bien, on fait un peu l'école à la maison aujourd'hui. Et oui, cette semaine, les cours sont en distanciel et c'est peut-être un peu compliqué parfois pour les parents de venir en aide aux enfants. Eh bien, on n'avait pas du tout prévu cette situation sur Calade, on n'est pas devin. C'est le hasard, mais quel heureux hasard qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, nous avons un enseignant en mathématiques avec nous. Julien Devers, selon lui, les mathématiques sont accessibles à tous, les matheux et les pas matheux, ça n'existe pas. Tout est question de méthode et de manière d'apprendre. Il a mis au point une application dans laquelle eh bien, on retrouve tous les cours de la 4e à la terminale sur son téléphone. Des cours traduits en langage simple et accessible, et avec surtout un professeur virtuel capable d'accompagner les écoliers dans la résolution d'exercices. L'application s'appelle Keez, K-E-E-S. On va en parler avec notre invité bien sûr, mais d'abord on commence l'émission en musique, on écoute les Rita Mitsuko qui nous chante le zéro, le chiffre zéro. Nous sommes ensemble sur Calade, il est 12h15, merci d'être avec nous.
Bending emptiness, just say yes to zero. Bending emptiness.
Les Rita Mitsouko sur Calade avec un titre qui rend hommage au chiffre zéro.
Ensemble sur le Calade.
C'est assez surprenant, mais ça existe. Aujourd'hui avec nous en studio, Julien Devers, bonjour.
Bonjour tout le monde.
Vous êtes enseignant en mathématiques depuis une quinzaine d'années.
Oui, un petit peu plus, ouais, ça ne rajeunit pas. Ouais.
Et vous êtes aussi l'inventeur d'une application de soutien en mathématiques. Comment est-ce qu'on pourrait décrire ça?
C'est ça, en fait, c'est une application de maths qui va vraiment décharger les parents du travail, avec le télétravail en ce moment, et c'est quand même pas évident. Et les élèves vont comprendre le cours tout seul, parce qu'un prof particulier, il n'y a rien de tel, mais c'est pas donné, et on l'a une heure par semaine, une heure et demie grand max.
Ouais.
Donc le reste du temps, qu'est-ce qu'on fait? On a l'application. Donc elle apporte à l'élève tout le cours expliqué avec des mots simples. Donc il y a tous les mots techniques et bien chiants qu'on retrouve dans les livres.
Ouais.
Et c'est traduit avec un code couleur en violet, les phrases simples. Donc l'avantage, c'est qu'un élève qui n'a pas compris son cours et qui veut anticiper un cours le comprendra tout seul.
Ouais. Il y a un vrai suivi. Donc ça s'appelle KeesMat.
Voilà, KeesMat, K-E-E-S, et plus loin, Mat. Alors on peut la télécharger gratuitement sur les stores Android et Apple.
Ouais.
Et une fois qu'on l'installe, on choisit son année scolaire. Et puis après, on peut vraiment jongler d'une année scolaire comme on le souhaite, histoire d'aller anticiper
ça
les années suivantes.
Ça peut suivre pendant tout le...
Voilà, ça va de la quatrième à la classe de terminale. Ça fait un petit peu de supérieur, mais très light. Voilà. Mmh.
Donc, votre parcours, à la base, vous êtes professeur de mathématiques?
Alors, même pas. J'ai fait ça au tout début pour me payer mes études dans l'aéronautique,
ouais,
qui était plutôt onéreuse. Et j'ai travaillé quelques temps dans l'aéronautique, puis après, il y a eu la crise qui est arrivée, donc ça n'a pas duré très longtemps.
Ouais.
Et donc, je suis retourné à mes premiers amours, la pédagogie. Et parce qu'au lycée, j'avais du mal à comprendre les mathématiques. Vraiment, je comprenais pas vraiment le cours. J'apprenais par cœur le cours en me disant, bon, je vais retenir 2-3 exercices, puis on verra en contrôle.
Ouais.
Et entre-temps, du coup, j'ai inventé plein de méthodes pour que les élèves, en 4 secondes, ils sachent quoi faire, et puis c'est réglé, et qu'on passe à autre chose.
Votre philosophie par rapport aux mathématiques, on dit souvent, il y a les matheux, il y a les pas matheux, il y a ceux qui ont la fibre mathématique et pour qui ça marche simplement, et il y a ceux qui l'ont pas, cette fibre. Vous dites, non, ça c'est n'importe quoi.
Alors en fait, bon, à vue de nez, j'ai pas fait les statistiques, mais d'ailleurs, 2% de la population française qui ont vraiment l'intuition mathématique, moi je l'ai jamais eu, de toute façon, et puis dans tout mon entourage, je connais personne qui l'a eu. Après, il y a ceux qui aiment les maths, ceux qui aiment pas les maths, mais pour être fort en maths, c'est soit on connaît son cours et on sait de quoi on parle, d'où les mots simples, et après on a des méthodes,
ouais,
et on arrive en contrôle et on n'a pas de surprise, à chaque question on sait quoi faire, soit on a juste retenu son cours vite fait, 2-3 petits exercices, un quiz récupéré sur internet, et là on va à la catastrophe, 8/20 c'est sûr, c'est ouais, pas une fatalité mais...
c'est de la méthode et, ouais, et puis du travail.
Ouais, c'est ça.
Et du coup vous avez mis au point cette application, comment est-ce que vous avez travaillé pour créer une application sur téléphone?
Alors au fur et à mesure de mes années, parce que ça doit faire presque 18 ans que j'enseigne, je mettais sur des petites feuilles A4, enfin des dizaines de feuilles A4, toutes les méthodes que je trouvais, les astuces, ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas. J'ai un peu tout testé, je récupérais d'élèves, je faisais des petits tests pour voir ce qui allait. Et à la fin, il y a tellement de feuilles, je me suis dit, je vais en faire un livre. Mais les gamins lisent plus de nos jours. C'est plutôt
c'est ce que j'allais dire. Ça aurait pu être un livre en fait, si c'est des.
Ouais, c'est ça. Mais vu qu'ils lisent pas, je me suis dit, ils sont toujours sur leur téléphone. Bon, on va leur mettre l'application dans le téléphone. Au moins, ils pourront réviser dans le bus ou ailleurs sans avoir la honte de faire des maths devant des copains. Ça se voit pas qu'on fait des maths sur un téléphone.
Ouais,
et puis, ils ont accès partout, quoi.
Ouais.
Voilà.
Et il y a le côté interactif aussi que peut-être un livre pourrait pas avoir. Si on résume cette application, il y a déjà tous les cours et les programmes qu'on peut retrouver.
C'est ça.
Les fameuses traductions qui doivent être bien utiles par rapport au texte compliqué. Et il y a aussi une espèce d'assistant virtuel. Qu'est-ce que c'est?
C'est-à-dire que avant l'assistant, après les cours, en fait, une fois qu'on connaît son cours, pour moi, on a fait 10% du travail. Un gamin pense qu'il en a fait 90, mais non, il va à la catastrophe. Contrôle. Quand on arrive sur un chapitre, par exemple les suites, s'il y a des premières et des parents de première ou de terminale qui nous écoutent, quand on arrive dans le chapitre des suites dans l'application, le cours représente un seul bouton. Et derrière, il y a une vingtaine de 20 ou 25 boutons, et à chaque bouton, on tombe sur des cas qui peuvent tomber en contrôle. Et à chaque cas, il y a un exemple. Donc ça permet à l'utilisateur déjà d'arriver en contrôle, il sait exactement quoi faire, il n'y a plus de suspense, c'est du par cœur. Donc il ne peut pas se rater, c'est pas possible. Et au niveau des révisions, vu que les parents n'ont pas toujours soit le temps, soit les compétences pour aider leur gamin à passer le collège ou le lycée, il y a un petit assistant virtuel qui de temps en temps est capable de faire l'exercice à la place de l'élève en lui demandant tout son énoncé, par exemple sur le théorème de Pythagore ou la trigonométrie. en ce moment, ils sont tous là-dedans en troisième. Ils sont tous en galère complète avec les parents le soir. Ils rentrent du boulot ou ils sont en télétravail, il faut faire à manger. Et puis un exercice avec un triangle abaissé, il faut calculer une longueur. Et des fois, c'est un peu les crises parce que les gamins ne veulent pas que leurs parents les aident. Là, ils vont dans l'application. Et la trigonométrie, par exemple, le gamin va tomber sur donc, l'assistant virtuel qui veut lui dire « Ok, tu veux calculer une longueur ou savoir si les rectangles, peu importe. » Et il ouvre cet assistant. Il y a un petit questionnaire qui tombe avec le nom des côtés, les longueurs, etc. Il clique sur « Valider » et à la fin, il a toute la rédaction détaillée comme si un prof particulier ou son prof en classe lui expliquait quoi faire.
Lui donner la méthodologie.
C'est ça. Et au moins, pendant ce temps-là, il apprend quelque chose. Il n'a pas la tête en l'air à chercher des trucs faux.
Et le fait que l'application fasse l'exercice à la place, est-ce que... moi, j'aurais tendance à dire, mais du coup, l'élève ne le fait pas et du coup, il passe à côté de l'exercice.
Non, parce qu'en fait, le problème, c'est que les élèves, ils n'ont pas trop envie de réviser de nos jours. Voilà, éduqués avec des écrans, ils sont plus intéressés à aller voir s'ils ont des notifications sur Facebook ou Instagram. Et quand ils voient les maths, ils voient ça comme une corvée pendant une heure, ils vont chercher et galérer, ils vont se sentir nuls. Donc, ils vont perdre confiance. L'application, la philosophie, c'est vraiment non. Là, il y a une méthode pour cette question. Regarde, je vais te montrer la méthode. Et puis là, je le fais à ta place de temps en temps. Donc, va réviser, t'as plus d'excuses.
Ouais.
Ça les met en confiance et ça leur donnera envie de réviser. Parce que s'ils ont des blocages, ils n'ont pas envie. Ils s'arrêtent.
Ça leur montre la bonne méthode et des astuces à reproduire. Et au moment du contrôle, ils sauront parce qu'avec l'application, ils l'auront fait.
C'est ça. Surtout qu'une méthode de révision que l'application va leur apprendre. Parce que si on révise mal, on peut passer son week-end à faire des maths. On aura 9 sur 20, grand max, si on s'y est mal pris. Comme je faisais à l'époque, je m'y prenais mal. Donc voilà, l'application leur apprend à réviser. Et en plus, tous les cours dans l'application, enfin, de plus en plus de cours, on commence à les mettre en vidéo sur YouTube. Il y a une page sur YouTube, la page KizMat. Et tous les mardis, on poste une vidéo de cours. De temps en temps d'astuces, mais c'est souvent du cours. Mais pareil, le cours, c'est 10% de ce qu'il faut savoir. Mais au moins, l'élève, ça va lui permettre de se rendre compte que, par exemple, là, mardi, on va poster un cours sur le produit scalaire sur les premières S.
Ouais.
L'élève qui regarde le cours, même s'il n'a rien compris en classe, il va comprendre parce que j'utilise que des mots simples et que des mots qui, en tout cas, ont fonctionné depuis 20 ans avec plein de gamins. Donc, je sais ce qui fonctionne. Et après, il pourra aller dans l'appli et puis apprendre tous les cas qui vont tomber en contrôle. Ouais.
Et c'est ça qui est, pour vous, votre conseil en tant que professeur, c'est de voir de nombreux cas, de faire des exercices et d'essayer...
Il faut déjà vraiment comprendre tout son cours, tous les tenants et aboutissants, pour qu'au cas où il y ait une surprise en contrôle, on sache finalement ce qu'on nous demande et qu'est-ce qu'on attend de nous. Et ensuite, il faut qu'un élève qui arrive en contrôle, qui connaisse son cours, qui l'a compris, et qui sait ce qu'il va avoir comme question, et à chaque question, il l'a comprise, il sait quelle méthode utiliser, il sait même des fois le nombre de lignes de rédaction qui l'attend. C'est de l'histoire géo. Enfin, l'histoire géo, c'est plus compliqué. Pour moi, les matières littéraires sont plus dures que les maths. Mais avec des méthodes, c'est facile, les maths. Sans méthode.
Après, c'est une méthode à suivre, à appliquer.
Et de la révision, surtout. C'est pour ça qu'il faut vraiment qu'ils aillent réviser. C'est pour ça que l'appli leur apprend une méthode de révision. J'en ai fait une vidéo, d'ailleurs, sur YouTube. On a monté ça avec l'équipe et on l'a posté il y a 2 mois, je crois. Pour que les élèves perdent pas une seconde à réviser n'importe comment.
Et alors, c'est quoi vous nous parlez de l'équipe, c'est quoi l'envers du décor de cette application? Qu'est-ce qui se passe derrière le téléphone?
Alors, il y a quelqu'un qui m'aide à faire le montage vidéo, parce que ça prend un temps de dingue, parce que nos vidéos, en fait, les cours de maths, les élèves voient ça comme quelque chose de rébarbatif. Et nous, on a fait des vidéos vraiment dans l'esprit, c'est plutôt punchy et fun. Donc,
c'est ludique et on s'amuse.
C'est ludique. J'essaie de rester sérieux, mais derrière, voilà, les intros, ça va faire rire les parents. Qu'ils aillent voir juste les intros, ils vont rigoler. Et au moins, à la fin d'une vidéo de 10 minutes, 5 ou 15 minutes, l'élève, il sera marré, il aura appris des trucs, il aura peut-être, j'espère, pas vu le temps passer. Et il y a une petite voix dans sa tête qui va lui dire finalement les maths c'est cool et il aura peut-être plus envie de réviser parce que les révisions c'est vraiment la clé. Sans révision, on peut pas avoir un 18 sur 20. Voilà.
Donc travailler à la maison. Donc il y a une équipe et cette application, vous l'alimentez ou maintenant une fois qu'il y a...
Non, on l'alimente tout le temps.
Il y a la base de données, c'est un travail au quotidien
Ce matin encore, j'avais un petit truc, j'étais en train de travailler sur une petite astuce de terminal. Parce qu'il y a un chapitre, je trouve pas ça encore assez intuitif, l'astuce, donc j'essaie toujours de peaufiner, parce que les méthodes, il faut les trouver, donc, mais c'est ça qui est intéressant, c'est de trouver un truc pour leur faciliter le travail. Voilà.
Réfléchir à trouver des logiques simples, dans ce qu'il n'est pas forcément.
C'est ça.
Et du coup, il y a un vrai travail de traduction et de simplification de toutes les étapes.
C'est ça. Ils ont remis un chapitre cette année au programme, donc là, cet été, et puis depuis, là, j'ai peaufiné 2-3 trucs. pour que ça leur facilite la tâche. Mmh. Et quand on met l'appli à jour, c'est transparent pour l'utilisateur, parce que quand on ouvre une page, peu importe laquelle, ça envoie l'information du serveur. Donc il n'y a pas besoin de faire une mise à jour sur le store. Le jour où il y a une mise à jour, c'est vraiment parce qu'on a trafiqué un truc compliqué.
Ouais, changer les menus, etc.
Il y a des mises à jour tous les jours, que ce soit des cours, des astuces, des méthodes, mais les gens ne s'en rendront pas compte en allant dans l'appli.
D'accord, ouais. Ça remplit la base de données tout seul.
C'est ça. Et au niveau de l'équipe, il y a aussi quelqu'un qui gère la com, voilà, mmh. qui s'occupe de... d'appeler des gens comme vous ou d'autres.
Et de...
Il y en a, voilà, c'est ça, un informaticien aussi qui gère tous les petits tracas, et puis moi aux vidéos et aux manipulations de cours. Ouais.
Très bien. Donc l'application, ça s'appelle Kizmat. En ce moment, ça tomberait bien parce qu'effectivement, c'est l'école à la maison. Et ça peut être très utile pour les parents qui nous écoutent.
C'est ça. Et elle s'adresse aussi aux enseignants. Elle s'adresse aux élèves parce qu'ils vont, ils vont y arriver. C'est impossible de rater avec. Aux parents parce que ça va les décharger un peu de la corvée des devoirs. Parce que de nos jours, les parents, les gamins ne veulent plus que les parents les aident. Et surtout les enseignants parce que j'ai travaillé en classe et je sais ce que c'est. On n'a pas toujours le temps de s'adapter à chaque élève. Mmh. Et l'application va leur donner rapidement des bonnes bases. Et par exemple, si je prends l'année de seconde, dans l'application, ça va lui apprendre à l'élève toutes les rappels de troisième utile ou de quatrième. Parce qu'en classe, on veut bien s'adapter à chaque élève, mais on n'a pas le temps d'aller lui rappeler les factorisations de troisième ou les puissances en quatrième.
Quand on a des classes d'une trentaine d'élèves,
voilà, c'est
plus.
Ça. Si on veut aller à l'essentiel, c'est ça. Et avec l'application, les enseignants se retrouveraient avec des classes face à eux, avec un bon bloc solide à niveau connaissances, et ils pourraient rapidement aller plus loin en classe. Donc ça les aiderait. Et il y a un lycée d'ailleurs à Lyon, au Lazariste, un des trois meilleurs lycées de Lyon pour moi, qui a téléchargé l'application il y a un an sur les tablettes des élèves, sans me demander. Ils l'ont téléchargé parce qu'ils ont vu que c'était bien, apparemment.
C'était utile, ouais.
Donc c'est un bon produit, quoi. Les établissements commencent à faire confiance à l'appli. Ouais.
C'est utilisé dans un lycée. Donc comment ça marche? Vous nous avez dit, on va sur
On va sur un store, voilà, l'Apple Store ou le Google Play.
Ouais.
On tape Kizmat, K-E-E-S, et puis Mat, M-A-T-H-S. Ensuite, on la télécharge, on l'installe. Alors, tous les cours sont gratuits à l'intérieur. Par contre, il y a un petit abonnement qui est sans engagement, qui est le moins cher du marché, parce qu'une application, ça coûte cher à faire. Moi, j'ai tout financé. J'ai pas de banque derrière.
Ouais.
Et dès qu'on la met à jour avec un informaticien, gérer la com, le montage vidéo, tout ça, moi, ça me coûte de l'argent, donc ça me permet juste de rentrer dans les frais. Donc, j'ai plein d'idées pour la rendre encore plus ludique. Mais il y a un petit abonnement qui coûte même pas 5€. C'est le prix d'un pain complet dans une bonne boulangerie à côté d'ici. Donc, pour avoir un prof accessible pendant un mois.
Ouais.
Parce qu'un prof à particulier, c'est entre 25 et 35 euros de l'heure.
La séance, ouais.
Là, c'est 5 euros pendant un mois. On a un outil. Moi, je m'en sers même pendant mes séances, quoi.
Mmh. Et à côté de ça, il y a effectivement la chaîne YouTube où on peut avoir des vidéos.
C'est ça. Tous les mardis, une vidéo qui sort. Là, elle a dû sortir il y a une demi-heure, je pense. Et tous les jeudis également, on poste des vidéos. Alors, le mardi, c'est plutôt basé sur les cours. 90% et des astuces dès qu'on en a. Je poste aussi le samedi. Et le jeudi, c'est vraiment pour leur montrer comment réviser ou comment préparer un contrôle ou comment faire un devoir maison sans perdre son temps. Je prends des énoncés et à chaque énoncé, on met des incursions, des screenshots de l'écran du téléphone. Et on voit qu'à chaque question, dans l'appli, il y a le bouton qui est prévu, la méthode, l'exemple, et de temps en temps, ça le fait à la place de l'élève. Donc franchement, ils n'ont plus d'excuses pour se rater. C'est impossible.
Donc, même apprendre à réviser, c'est quelque chose à apprendre aussi également et que vous proposez dans dans l'application.
Ça.
Merci beaucoup Julien Dever d'être venu nous parler de Kizmat. À très bientôt, au plaisir.
Bonne journée, au revoir.
On va se quitter avec M, l'amour mathématique.
En 12 pour toi, je me multiplie parfois. Pour effleurer ton passage, humer encore ton visage. Ouais, je diviserai mon cœur par deux. Un peu. Oh, l'infini grand, je te vois 100% conquis par toi. Je sais, ce n'est pas très excentrique. L'amour mathématique, les soucis, je les
mathématique, l'amour mathématique, l'amour mathématique.
M sur Calade avec l'amour mathématique. On retrouve Lilywood and the Prick tout de suite avec leur dernier titre, A Song, juste avant de retrouver le coach, bien sûr.
A song for the broken hearted and anyone who wants it. A song of fine, I'm always writing about the things I say I quit. Here's the words we never say, games I wish I never played. One of my lovers, but one that would still please my mother. Here's to warm and wet kisses, summers that never end. Here's to the lonely days when every minute lasts a year.
And the Prick sur Calade avec le titre Song.
Oui.
Bonjour, on voudrait voir votre mâle dominant.
Il est là-bas.
Ils sont à vous, coach.
Ensemble sur Calade, le coach.
Allez, tout de suite, on retrouve effectivement le coach qui aujourd'hui va nous parler, je crois, de ligne de désir. Bonjour, coach.
Salut, gamin.
Vous allez bien, enfin ?
Ça va.
Très bien, très bien.
Moi aussi, ça va bien. Alors, comme tu viens de le dire, gamin, nous avons parlé de ligne de désir aujourd'hui. Ouais. Alors, je vous vois déjà, les gars, en train de tendre l'oreille et d'affûter votre attention plus qu'à l'accoutumée. Vous avez entendu le mot désir et vous vous dites, le coach, la semaine dernière, il nous a parlé d'amour. Bingo, cette semaine, c'est la suite logique, il nous parle de désir. Perdu, les gars. Rien à voir, choucroute, fausse route. Ah, vous pouvez relever les yeux au-dessus de la ceinture, car les lignes de désir, c'est un concept d'urbanisme. Ça vous refroidit d'un coup. Hein.
Ah, on va parler d'urbanisme d'immeubles et de routes.
Alors, pas tout à fait. On va se servir de ce concept d'urbanisme pour réfléchir un petit peu à ce que ça veut dire d'être un nouvel alpha. Parce que derrière ce joli terme de ligne de désir se cache un concept très intéressant. Les lignes de désir, ce sont les chemins clandestins, en dehors des chemins déjà tracés, laissés par le passage répétitif des gens. Tu sais, gamin, ce sont ces chemins où l'herbe ne pousse plus. On dit qu'il faut 15 personnes minimum qui utilisent un passage pour commencer à le marquer. Et il y a aussi des lignes de désir éphémères qui se dévoilent, par exemple, lorsqu'il neige. Tu sais, quand il y a de la neige, on se rend compte que les piétons, ils ne traversent pas sur les passages piétons prévus, mais parfois 10 mètres plus loin, ouais. Parce que c'est plus pratique et plus logique. Eh bien, les lignes de désir, c'est ça. C'est-à-dire que ce sont tous ces chemins qui ne sont pas prévus par les urbanistes et par ceux qui décident, mais qui sont empruntés et dessinés par les gens, par le passage répétitif des gens qui utilisent les chemins qui leur conviennent. Et ces chemins-là de désir, c'est la réalité qui s'impose face aux décisions de ceux qui pensent savoir. Et ce qui est beau avec une ligne de désir, c'est que son apparition va attirer d'autres personnes à emprunter ce nouvel itinéraire. parce que dès qu'une ligne de désir apparaît, eh bien, ça donne envie aux gens de pouvoir la suivre en se disant, bah oui, c'est plus logique de passer par là. Mmh. Alors, je vous connais, les gars, vous vous demandez si la chronique du coach a tourné dans le genre Wikipédia où je vous parle de tout et n'importe quoi. Que vient foutre de l'urbanisme dans notre cheminement vers la découverte de la masculinité naturelle et bienveillante? Les plus malins d'entre vous voient déjà se dessiner un début de réponse. Je vous rabâche à longueur de chronique qu'il faut marcher en dehors des routes toutes tracées pour cheminer en tant que nouveau mâle alpha. Vous n'avez pas tort. Ce que nous enseignent les lignes de désir, c'est que si nous sommes suffisamment nombreux à choisir d'autres routes et d'autres itinéraires que les routes tracées et balisées, eh bien nous allons contribuer à créer de nouvelles habitudes et de nouvelles voies. Mmh. Et là, ça devient intéressant. Je vous dis souvent que nous sommes assignés à des places en tant qu'hommes, qu'il y a des normes dont il est difficile de déroger sans provoquer des réactions du groupe et de la société. Eh bien, les lignes de désir, même si c'est un concept issu de l'urbanisme, eh bien, peuvent nous aider à penser ce qui se joue lorsque nous faisons le choix de marcher en dehors des allées, lorsque nous traversons en dehors des clous. Lorsque les passages répétés des gens créent des lignes de désir, les personnes en responsabilité de l'urbanisme, hein, dans une commune ou dans une communauté de communes, montrent plusieurs façons de réagir. Il y a ceux qui ne supportent pas que l'on ne respecte pas les chemins établis, et parfois c'est à juste titre, par exemple sur le littoral ou dans les parcs naturels. C'est pour éviter le piétinement et protéger la flore sauvage. Mmh. Alors, de ne pas vouloir qu'on crée des désirs, c'est parfois pour protéger. Mais on peut se poser la question aussi que quand certains refusent qu'on fasse différemment, c'est pour protéger quoi. Et puis d'autres fois, c'est juste parce que c'est insupportable à certains de nous voir remettre en cause les chemins qu'ils nous imposent ou de remettre en cause la norme. Alors, on les voit installer des barrières, des plots, des chaînes pour nous empêcher de passer. Les mêmes hein, qui refusaient aux femmes d'accéder à des métiers ou à des responsabilités. Eh bien, pour tout vous dire, leur réaction est une fuite en avant, car malgré les barrières, malgré les plots, malgré les pancartes d'interdiction, de nouvelles lignes de désir continuent de se créer. Et même quand les urbanistes choisissent de fermer une ligne de désir qui était créée par des habitants, ben souvent les habitants se créent d'autres lignes de désir. D'autres abordent l'apparition des lignes de désir différemment. Soit ils les ignorent, ils tolèrent la coexistence des chemins officiels avec les chemins nés d'usage. Et certains, plus ouverts, officialisent les lignes de désir comme étant de nouveaux itinéraires de déplacement. C'est ainsi qu'après un épisode de neige, on décide de déplacer les passages piétons là où les gens traversent vraiment. Eh bien, ces réactions aux lignes de désir, nous allons les retrouver en tant que nouveau mâle alpha, car nous aussi, nous cherchons de nouveaux équilibres dans notre identité d'homme, et nous refusons de marcher sur les routes toutes tracées. Et c'est l'affirmation de notre différence, et la remise en cause de la norme et des assignations qui va petit à petit faire apparaître de nouveaux usages et encourager d'autres hommes à cheminer pour devenir à leur tour de nouveaux mâles alpha. Voilà, gamin.
Excellente idée, c'est une belle métaphore, je trouve, ces petits sentiers de traverse que vous nous proposez, coach. Merci beaucoup.
Et puis, quel joli nom, quand même.
Les lignes de désir, c'est vrai.
Sortir des routes toutes tracées. Moi, je trouve que c'est beau, c'est de la poésie.
Ça fait rêver. Merci beaucoup, coach. On se dit à bientôt sur Calade.
À bientôt, gamin. Et puis, bon courage à tous ceux et toutes celles qui étudient à la maison ou qui bossent à la maison.
Oui, bon courage, c'est tout ce qu'on peut leur souhaiter, effectivement. À bientôt.
Ensemble sur Calade.
Allez, bah après avoir parlé de ces lignes de désir très poétiques, effectivement, on écoute une Québécoise, Safia Nolin, qui nous chante Les Chemins.
Je pars passe par les chemins oubliés.
Safia Nolin, chanteuse québécoise qui nous chantait Les Chemins sur Calade.
Vous connaissez Miss Mance ?
Non, monsieur.
C'est un excellent auteur, je l'aime beaucoup.
Moi aussi, j'aimerais bien avoir le temps de lire, une fois de temps en temps.
Mais ils savent pas lire, ils risquent pas de retrouver un bouquin.
Ensemble sur Calade, l'humeur littéraire du libraire.
C'est de la littérature.
C'est important la lecture.
Allez, effectivement, on va parler littérature tout de suite. On retrouve notre libraire, c'est Bertrand Lamure. Bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Comment allez-vous ?
Eh bien, très bien.
Très bien, bon. Alors, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ?
Alors, un indice. Si je dis « Dieu est le seul être qui, pour régner, n'a même pas besoin d'exister. » Mais je pourrais dire aussi « Bien qu'on ait du cœur à l'ouvrage, l'art est long et le temps est court. »
C'est très beau, mais alors je n'ai pas la référence. Mais j'ai peut-être une petite idée. Est-ce qu'on parle de Baudelaire ?
Waouh, bingo, bravo Mathieu. Alors là, Et ben oui, parce que le 9 avril, soit vendredi, c'est les 200 ans de la naissance de Baudelaire. Je me dis quand même, il faut quand même en parler, soyons un petit peu sérieux de temps en temps. Et il faut parler de ce fameux Charles Baudelaire. Et évidemment, la période que l'on vit fait qu'on a un peu tendance à oublier tous ces événements, ces commémorations, etc., ce fameux bicentenaire. Mmh. Mais effectivement, nous, à la librairie, on souhaitait quand même le faire, donc en respectant très, très scrupuleusement, les règles sanitaires, on fera une lecture musicale vendredi en deux temps, en petite jauge, et donc je dis tout de suite c'est complet, hein. mais en attendant, voilà, on tenait à marquer le coup.
Ouais.
Et puis de parler de Baudelaire. Alors quand j'ai eu cette idée, moi j'ai eu un petit peu peur quand même, parce que moi Baudelaire, je l'avoue, hein, j'ai un peu honte, je l'avoue, mais je crois que j'y avais quand même quelques décennies que je n'avais pas relu Baudelaire. Donc en gros... il y a eu l'avant-bac, et puis après,
c'est
il y a
ça.
Eu
le...
Voilà.
Baudelaire, c'est à l'école qu'on l'étudie.
Voilà, c'est vrai que je pense que depuis la classe de seconde ou première, je n'avais pas trop fréquenté Baudelaire. Et donc, je me suis replongé dedans. Je me suis d'abord replongé dans sa biographie, qui est, ma foi, voilà, intéressante, hein, parce que c'est un homme qui est, on va dire, bien né, hein, avec un petit héritage à la clé, qui a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup dépensé. Mais voilà, c'est un homme qui est intéressant parce qu'il est un petit peu multitouche. Hein, Il a été évidemment très marqué tout au long de sa vie par l'écrit, par les mots, par la poésie, mais aussi par l'art. Hein. Il a été critique d'art, il a également été traducteur, entre autres d'Edgar Allan Poe. Il a même été dans sa jeunesse lyonnais. ouais, tout de suite, ça, tout yes. suite, ça place le personnage, quoi, quand même. Voilà. Et du coup, je trouve que c'est un personnage très intéressant à suivre parce que il incarne aussi beaucoup le 19e siècle. Donc, il est né en 1821. Et c'est vrai qu'il incarne complètement ce 19e siècle, qui est un siècle où les choses se libèrent, les mœurs se libèrent. Et il y a comme ça à la fois dans l'ouverture au monde, dans aussi l'ouverture vers les filles de petite vertu, ce qui fait que comme toutes les personnes du 19e siècle qui ont un peu tendance à avoir différentes aventures, la syphilis va beaucoup amocher. Il va aller faire un petit séjour du côté de Calcutta. Alors ça, c'est plutôt son beau-père qui veut un peu l'éloigner de ses frasques. Et voilà. Et donc, on reste dans ces personnages. Alors, il va mourir en plein Second Empire, tout en étant proche de Victor Hugo, très anti-Napoléon, même s'il a obtenu quand même certaines faveurs de l'impératrice Eugénie. Alors, voilà, il y a tout un parcours de cet auteur qui va être à la fois scandaleux, en même temps petit génie quand même de la poésie. Et il y a vraiment de très belles choses du coup à retenir de lui. Et je me dis que il faudrait quand même lire un petit peu du Baudelaire. Alors évidemment, nous on connaît tous les Fleurs du Mal,
c'est la référence
qu'on va lire de je sais pas de 14 à ben après reste à voir quoi, hein, parce que du coup c'est un petit peu, c'est parfois je vois nous en tant que libraire, il est très vite limité à l'univers lycéen.
Ouais.
Et je trouve qu'effectivement, c'est vraiment dommage de l'oublier. Donc je trouve que c'est très chouette de pouvoir parler un petit peu de Baudelaire. Alors, est-ce que tu souhaiterais écouter un petit peu de Baudelaire ?
Ah bah là, avec l'introduction qu'on a eue, moi ça m'a mis l'eau à la bouche. J'aimerais bien réécouter, réentendre peut-être des textes qui me rappelleront des souvenirs d'école. Baudelaire, j'ai toujours ce souvenir de sa photo, il a le regard sévère sur la...
Tout à fait, c'est la photo qu'on connaît le mieux, qui est celle de Nadar, où effectivement il a ce regard un petit peu sévère, et en même temps c'est un homme qui va avoir ce côté spleen, ce côté un petit peu de bien aimer quelques substances illicites, mais c'est aussi un homme qui a eu de vrais poèmes d'amour, une sensibilité très forte. Non, je pense qu'il faut, moi qui l'ai un peu redécouvert là récemment.
Il n'était pas si sévère que ça.
Non, je pense qu'il... Alors, je vais laisser la parole à Carole Genetier, comédienne de son état, qui va vous lire un petit extrait, effectivement, de Baudelaire. Ouvrez bien les oreilles.
Alors, ça tombe bien, c'est un madrigal triste. Que m'importe que tu sois sage, sois belle et sois triste. Les pleurs ajoutent un charme au visage, comme le fleuve au paysage. L'orage rajeunit les fleurs. Je t'aime surtout quand la joie s'enfuit de ton front terrassé, quand ton cœur dans l'horreur se noie, quand sur ton présent se déploie le nuage affreux du passé. Je t'aime quand ton grand œil verse une eau chaude comme le sang, quand malgré ma main qui te berce, ton angoisse trop lourde perce comme un râle d'agonisant. J'aspire, volupté divine, hymne profond délicieux, tous les sanglots de ta poitrine, et crois que ton cœur s'illumine des perles que versent tes yeux. Je sais que ton cœur qui regorge de vieux amours déracinés flamboie encore comme une forge, et que tu couves sous ta gorge un peu de l'orgueil des damnés. Mais tant, ma chère, que tes rêves n'auront reflété l'enfer, et qu'en un cauchemar sans trêve, songeant de poison et de glaive, éprise de poudre et de fer, n'ouvrant à chacun avec crainte, déchiffrant le malheureux partout, te convulsant comme leur teinte, tu n'auras pas senti l'étreinte de l'irrésistible dégoût. Tu pourras, esclave reine, qui n'aime qu'avec effroi dans l'horreur de la nuit malsaine, me dire l'âme de cri pleine, je suis ton égal, ô mon roi.
Merci beaucoup.
Ça va, Mathieu? toujours vivant.
Toujours là. Merci beaucoup pour cette lecture, ce poème. C'était très beau. Très joli.
Bah oui, tout merci à fait. À Carole mais Carole Jeunetier est une grande dame des mots. Donc c'est tout à pour ça que je lui ai proposé de venir effectivement nous enchanter avec Baudelaire, même s'il y a toujours ce côté spleen et idéal, j'aurais tendance à dire. Mais c'est vrai que c'est très beau. Ça fait partie de ces poètes classiques, mais de temps en temps, je trouve que c'est très chouette de pouvoir se replonger. Voilà, on avait fait le printemps des poètes il y a 2 ou 3 semaines, et c'est vrai que
ouais, il faut se replonger dans Baudelaire. Donc vendredi, ce sera le 9, ce sera les 200 ans alors, de Charles Baudelaire.
Voilà, c'est ça. Donc dès que tu vas te lever vendredi matin, Mathieu, voilà, plonge-toi dans Baudelaire.
Parfait, merci beaucoup voilà. Bertrand pour cette rubrique consacrée à ce grand poète.
Tout à fait, rubrique baudelairienne.
Baudelairienne. On se dit voilà. À très bientôt sur Calade.
À bientôt, bonne journée à tous.
Au revoir.
Ensemble sur Calade.
Bon, ben, on va rester dans cette ambiance Baudelaire. Il nous reste quelques minutes. Je vous propose d'écouter Serge Gainsbourg qui chantait au début de sa carrière un morceau qui s'appelle Baudelaire.
Que j'aime voir, chère indolente, de ton corps si beau. Comme une étoffe vacillante miroiter la peau. Sur ta chevelure profonde, aux acres parfums, mer odorante et vagabonde, aux flots bleus et bruns, comme un navire qui s'éveille au vent du matin, mon âme rêveuse appareille pour un ciel lointain. Tes yeux où rien ne se révèle, de doux ni d'amer, sont de bijoux froids où se mêle l'or avec le fer. À te voir marcher en cadence, belle d'abandon, on dirait un serpent qui danse au bout d'un bâton. Sous le fardeau de ta paresse, ta tête d'enfant se balance avec la mollesse d'un jeune éléphant. Et ton corps se penche et s'allonge.
Le serpent qui danse, repris par Serge Gainsbourg, ça fait ce morceau qui s'appelle Baudelaire. C'est là-dessus qu'on va se quitter. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Puis je vous donne rendez-vous demain à 12h12 pour un nouveau numéro d'Ensemble sur Calade. D'ici là, prenez bien soin de vous.
Ensemble sur Calade.
Ensemble sur Calade.
Ensemble sur Calade.